BFM Business présente. BFM Entreprise, les outils RH. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Entreprise, l'émission, vous le savez, qui plonge au cœur des boîtes tout au long de la semaine. Le lundi, on parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance, le jeudi de transmission. Les outils RH, donc, et cet éléphant dans la pièce, l'intelligence artificielle, beaucoup de questions avec cet outil qui va vite, très vite. Comment organiser au mieux nos entreprises? Comment s'entourer au mieux? Ce sont les questions que vous nous avez posées, auxquelles on va répondre aujourd'hui avec mes invités. Dominique Podesta, directrice associée au sein du cabinet de management de transition EIM. Bonjour, bonjour Dominique. À vos côtés, Geoffrey Fournier, président de Victoria Merage. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Et notre juriste du jour, Xavier Dulin, avocat spécialisé en droit social. Bonjour Xavier.
Bonjour Sandra.
Les outils RH à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est parti.
BFM Entreprise, les outils RH.
C'est très intéressant ce thème parce qu'il y a plein de façons de prendre le sujet, plein de questions à se poser. On va déjà commencer par cette question de Zino pour vous, Dominique. Il nous demande quels sont les nouveaux profils dont ont besoin les entreprises pour réussir leur transformation. Question un peu vertigineuse, hein, faut l'avouer.
Oui, alors comme on venait juste avant de parler de Cannes, vertige, Alors moi, il y a un angle qui me vient tout de suite. D'abord, on est dans le prospectif. Et ma prospective est fondée plus sur ce qu'attendent nos clients chez EIM, plus que sur véritablement se inventer ou deviner ce qui sera fait demain. Les transformations aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont liées d'abord à des contextes qui sont particulièrement différents du passé, qui impliquent de l'inconnu, la capacité à gérer l'incertitude, qui nécessite d'avoir un sang-froid incroyable, parce qu'en fait, comme on n'est jamais tout seul, on a une visibilité, une vision en fait de la transformation qui dépend aussi de la manière dont nous-mêmes on a vécu chacun nos expériences, hein, quand on est dans un comité exécutif. Donc, moi je dirais le sang-froid véritablement, est ce qu'on observe le plus aujourd'hui, plus encore qu'avant, parce qu'il y a l'inconnu, parce qu'on travaille avec des gens qui sont très différents et qui changent très régulièrement aussi, parce qu'on s'appuie sur son passé. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on doit sortir de nos certitudes et de nos biais habituels. Et puis la deuxième compétence que j'évoquerai, c'est l'écoute. Voilà, écouter l'autre dans en quoi il est différent de nous et écouter ce qu'on ne connaît pas. Se nourrir aussi des approches différentes.
Geoffrey Fournier, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, complètement. En fait, en complément de ce qu'a dit Dominique, c'est vraiment cette capacité de discernement. En fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, de plus en plus, en fait, nos collaborateurs vont être augmentés. Ils vont avoir une masse d'informations très importante à ingérer, sans pour autant avoir la maturité pour le faire. Et c'est cette capacité de discernement qui va permettre de faire vraiment la différence, notamment pour les managers.
C'est intéressant parce que ce que vous dites, quand même, c'est que faut pas vraiment faire de plan sur la comète, faut se laisser un peu surprendre par les profils qu'il y a sur le marché.
Alors, c'est tout le sujet d'ailleurs de l'IA, c'est-à-dire que l'IA a processé et a permis d'optimiser les coûts de recrutement, finit par ne plus mettre en avant des profils où on se laisserait séduire ou laisserait intéresser par des profils différents. Et ça, c'est un risque majeur de l'IA, notamment, moi je le vois dans les grands groupes, hein, ou quand on gère 2000, 3000 embauches de jeunes diplômés ou de profils commerciaux, eh bien, on a évidemment besoin de l'IA pour accélérer. Et donc, on en oublie ces 20% qui font la différence. C'est toujours la règle des 80-20. Hein. Donc, les 20% qu'on ne voit pas sont probablement ceux qui nous apportent toute cette curiosité, cette inventivité, ce sang-froid et ce discernement dont on parle. Donc, il y a un vrai sujet sur les grands groupes où il y a un vrai risque, à mon avis, justement. C'est qu'on ne verra plus ces profils-là. Et en revanche, il y a une vraie opportunité pour les ETI. Pour les entreprises familiales où il y a des dirigeants qui doivent connaître tout le monde, parce que dans ces entreprises, un, le salarié peut encore se retrouver reconnu dans ce qu'il est, et deux, les dirigeants ont encore accès à leurs salariés. Et je crois que ce qui fait la différence et ce qui fera la différence, notamment dans ces process-là, ce sera la capacité à regarder les individus, en fait, et à rendre visible ce que nos process rendent invisible.
Sophie vous demande, et je trouve que la question est pertinente, pour bien s'entourer à l'heure de l'IA, Xavier, faut-il recruter des personnes compétentes dans le domaine d'activité du poste, finalement, ou des geeks?
C'est vrai que c'est toute la question à l'heure de la mécanisation, la robotisation. On se dit qu'en fait, il vaudrait mieux avoir de très bonnes machines qui maîtrisent ces outils-là plutôt que des personnes compétentes. En fait, ce n'est pas vrai, fort heureusement. C'est pas vrai à l'heure d'aujourd'hui, comme diraient certains dans une logique redondante. C'est qu'en fait, il n'y a pas de doute, on recrute d'abord des personnes compétentes dans son domaine.
Mmh, encore aujourd'hui.
On a besoin, par ailleurs, de personnes qui ont une certaine curiosité. Une capacité d'adaptation, une certaine curiosité, avec une certitude. Donc ça veut dire que l'émotion compte encore. On dit, en fait, l'idéal, la combinaison idéale pour tout métier, c'est vraiment la tête, le cœur et la main. Donc c'est la tête, vous pensez, vous êtes capable de faire ce qu'il faut correctement. Le cœur, vous êtes capable de réfléchir par rapport aux besoins de votre client et besoins de votre entreprise. Et la main, vous allez pouvoir le réaliser. Aujourd'hui, l'IA, elle nous sert pour la tête. On n'a pas de réponse pour le cœur et la main. Pas encore, peut-être demain, mais on n'a pas encore de réponse. Donc il y a cette première certitude, il faut d'abord recruter des gens compétents, mais avec une certaine curiosité, c'est ce que vous avez évoqué. Et la deuxième chose en droit social qui est vraiment primordiale, c'est qu'en fait les entretiens d'embauche, les tests à l'embauche ne vous permettront pas de savoir si vous avez ou non le bon candidat. Vous allez savoir si la personne a des compétences dans le domaine qui vous intéresse, grâce au CV, à l'entretien, certes, vous aurez un certain niveau, mais le cœur et la main, vous saurez pas. Mmh. Et même chose pour ce qui est de la maîtrise des outils IA, ce n'est que la période d'essai qui vous permettra d'avoir des réponses à cette question sur cette curiosité, cette capacité d'adaptation et donc de combinaison de ces justes compétences avec ces outils contemporains et la réalisation concrète qui nécessite encore. Ce que je dis souvent pour l'IA peut-être, c'est que vous avez une notice. Et vous êtes cuisinier, vous avez la recette de cuisine. Vous allez avoir la meilleure recette de cuisine. Et vous allez avoir les étapes à respecter. Vous n'aurez pas le plat réalisé.
Oui, je vois ce que vous voulez dire, Dominique.
Alors, je voudrais juste compléter, parce que je sais pas si tu fais beaucoup de cuisine, en fait. mais je dis ça parce qu'en fait.
Mais ça compte, les deux comptent. Les gestes et la notice.
Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on pose la question à ChatGPT, fais-moi une quiche avec ce que j'ai dans le frigo, il va nous la faire, en fait. Donc, il va aller au-delà de la recette et il va nous la faire. Si on fait un parallèle un peu simple avec les compétences, la grande différence dans les profils, moi, je trouve, c'est que il y a à la fois les grands recrutements collectifs. Encore une fois, le grand collectif, les process, etc., où on va trouver ce qu'on... Dans 80% des cas, les profils qui nous conviennent, parce que l'un dans l'autre, le recrutement est en soi déjà une science qui est tellement aléatoire qu'on gagne un peu en process. Ce qui est très différenciant, c'est notamment les dirigeants, parce que dans leur COMEX, ils ont 10 personnes à recruter. Ils n'en ont pas 50 ou 70, et quand il y a du turnover, c'est une ou deux dans l'année. Au-delà des compétences, ça se voit dans les CV, ce qui est vraiment observable, c'est la capacité à résoudre des problèmes. C'est pas une histoire de compétence, c'est que quel que soit le parcours de quelqu'un, vous prenez un contexte différent, il est la bonne personne ou il n'est pas la bonne personne. À l'heure de Cannes, on pourrait parler des castings. Et ça, c'est un élément essentiel et les dirigeants le savent. Juste cette anecdote. Hier, je suis interrogée sur un dirigeant de retournement chez UIM. Eh bien, ils nous ont demandé des business, qu'est-ce qu'on a fait ? Remarque du dirigeant, ne me donnez pas des cas de ChatGPT. Donc, il y a une lucidité absolue sur le fait que c'est plutôt les partenaires ou les individus eux-mêmes qui, à travers leur CV, vont aller augmenter leur profil ou leur offre, alors qu'en fait, tout réside dans la réalité. On continue à avoir, et notamment des dirigeants, qui évidemment sont complètement connectés à la réalité. Donc, quand je suis sur du volume, je gagne en process, mais quand je suis sur des individus et des expertises, je gagne en précision, évidemment, et en fiabilité quand je rencontre et quand je suis sur la réalité.
Comment bien s'entourer alors de l'IA et cette inquiétude, cette petite musique depuis plusieurs années maintenant, Geoffrey Fournier, c'est d'être remplacé par l'IA. Soraya nous demande, l'IA va-t-elle remplacer les managers ou révéler les mauvais ?
Un petit peu les deux, en fait. Le manager très structurant, en fait, qui avait principalement pour qualité d'automatiser, de mettre en place des process, etc. Mais en fait, ces qualités-là, elles vont être un petit peu relayées au second plan, puisque des managers un petit peu plus faibles dans ces domaines-là, en fait, va se faire aider d'un outil qui lui permettra, en fait, de structurer et de vraiment alimenter son reporting et la nécessité d'une validation ou d'un contrôle. Donc, l'outil va compenser cette faiblesse-là. Ce que l'outil va pas compenser, en revanche, c'est cette capacité, encore une fois, de discernement à gérer l'humain, l'émotionnel. Ça c'est clair. Donc on aura un manager augmenté à l'image qu'on a un collaborateur augmenté, mais ça en restera là en fait. Hein. Quelqu'un qui a des limites dans le domaine émotionnel ou dans la relation à l'autre, etc. Ben en fait cet outil-là, il ne permettra pas de le compenser en tout cas.
Pour vous, ça veut dire que en soi, tout ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle dans le recrutement, ça va pas faire tant de changements que ça.
Ça va changer les process, ça va les rendre plus rapides. Les grosses masses vont être traitées plus rapidement. Mm-hmm. En revanche, sur des recrutements, on va dire très spécifiques, sur des fonctions sensibles. Prenons un exemple très simple. Prenons l'exemple d'un directeur sécurité, sûreté, d'un grand groupe de défense, etc. Bah, il faudra aller un petit peu au-delà. Et c'est pour cette raison qu'il y a également des dispositifs d'évaluation et des dispositifs de vérification de référence. Mm-hmm. Et une période d'essai, bien entendu, comme on le disait auparavant. Donc, il faut quand même avoir tous ces éléments en tête. Le recrutement, il s'arrête à la fin de la période d'essai, comme je dis souvent. Ça fait partie du process. Il s'arrête pas au moment où on traite un CV et on valide ou on signe un contrat de travail.
Mmh. Dominique,
l'IA est apparue. Enfin, c'est pas d'hier. Il y a déjà des entreprises qui, depuis environ 10 ans, travaillent avec des process accélérés de recrutement. Donc, même les plateformes de recrutement ont déjà, avant même l'IA, complètement aseptisé le recrutement. D'ailleurs, avec beaucoup de frustration des individus qui se disent j'ai pas de réponse, je sais jamais si je suis pris, etc. Parce que quand vous gérez des gros volumes, vous mettez une annonce, vous avez 2000 CV qui arrivent et c'est plus comme on le faisait il y a 30 ans, on regardait chaque CV, les lettres de motivation, etc. Donc, ce monde là n'est pas nouveau. Donc oui, il y a un impact absolu quand on a des grands volumes de recrutement et c'est une grande chance parce qu'on est capable d'accélérer le recrutement et quand on a des besoins urgents, c'est bien. En revanche, on a déjà vu un certain nombre de limites à ça. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a un autre impact recrutement, c'est la suppression de tous les postes qu'on voit apparaître, dont certains sont prédictifs, bon, avec des tensions énormes sur ce que ça va représenter, mais on le voit déjà, les cabinets d'audit, les cabinets de conseil, eux, c'est carrément leur modèle qui bouge. Parce qu'en face, on le voit aussi dans le cinéma, dans le monde de l'image. Mmh. Les clients disent, est-ce que vous me facturiez 2,5 parce que vous mettiez plein de compétences, maintenant je sais qu'il y en a une partie qui est faite par l'IA, donc vos marges vont réduire. Donc il y a absolument un impact. Mesurer ce que ça va représenter, c'est probablement, enfin, chacun peut donner son chiffre, mais c'est clair, manifestement, il y a des modèles économiques qui vont être profondément transformés par l'IA, et ça commence déjà dans les postes qui sont à créer, qui ne le seront pas, et les postes supprimés.
Une question existentielle que nous pose Jean. J'aime beaucoup cette question. Faut-il accepter l'idée que votre candidat puisse être meilleur que vous, par exemple par ses compétences, ses nouvelles compétences dans l'IA que vous n'avez pas ? C'est très intéressant ça, Xavier Dulin.
Oui, je pense que sur cette question de la maîtrise des outils, de nouveaux outils liés à l'IA, parce qu'on a parlé longtemps des nouveaux outils de l'information et de la communication, là on est vraiment, c'est vraiment tout à fait autre chose. Hein. On va bien plus loin, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir effectivement de gêne par rapport à ça. Par la force des choses, aujourd'hui, ceux qui se retrouvent sur le marché de l'emploi maîtrisent mieux les outils que ceux qui sont déjà installés, le plus souvent, sauf si vraiment les personnes en poste, s'ils sont réellement intéressés, ont accepté de se former. Donc je dirais que majoritairement, oui, il faut accepter l'idée que celui qu'on va recruter, celle ou celui qu'on va recruter, maîtrisera mieux ces outils-là. Mais il faut fixer des lignes, parce qu'en fait, il y a toujours cette question, et notamment en droit, c'est un des plis de mes réflexions, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus un partage de l'autorité immédiat. Et ça, on vous courait à la catastrophe, parce qu'il y a aussi un partage de responsabilité. Donc, il faut intégrer cette idée que peut-être que l'autre est meilleur que vous, dans un cabinet d'avocat, il est meilleur que vous parce qu'il sera mieux utiliser ces outils-là. Ça ne veut pas dire c'est un meilleur avocat que vous. Hein. Et il faut fixer des lignes. Et il ne faut pas non plus interdire le recours à l'IA. Il faut l'intégrer en veillant notamment à ce que les références ont pu être vérifiées, qu'il n'y ait pas d'hallucinations, ce qu'on appelle des hallucinations, parce que l'IA vous fait plaisir, elle va répondre de toute façon. Les sites que vous consultez vont répondre, notamment s'ils sont payants, ils vont vraiment aller au bout de la réflexion. Donc ils vont vous répondre même quand la réponse n'est pas valable, en fait. Donc il faut, dans la logique du recrutement, se dire « je vous permets de l'utiliser, mais de bonne foi ». Vous me direz ce que vous avez fait par vous-même et ce que vous avez fait avec l'IA.
Ça met, il y a derrière cette question le spectre d'un bouleversement de la hiérarchie en entreprise. J'embauche quelqu'un qui est plus jeune, qui maîtrise mieux l'IA que moi. Est-ce que derrière, justement, l'autorité pourra être exercée de la même façon ? Est-ce qu'il y aura toujours un échange de compétences ? Geoffrey, vous en pensez quoi ?
Le management va être complètement différent. Hein. Il est le management très vertical que l'on peut connaître depuis quelques années, ou dans des situations un peu particulières, typiquement le management militaire, etc., un petit peu plus vertical.
Oui.
Et bien dans les faits, il pourra pas être effectué. On sera plus sur un management inspirationnel, de plus en plus vis-à-vis des jeunes, et on sera vraiment là-dedans. Et donc à nous de trouver le juste équilibre en fait entre les deux, entre autorité, contrôle et inspiration.
Parce qu'on dit souvent que le contrat de travail, il est basé sur la
loyauté.
Et sur l'autorité, sur cet exercice de l'autorité, sur cette...
Exactement. Il faut vérifier et exiger cette vérification. Et je dirais même qu'on va sur le terrain disciplinaire si cette vérification n'a pas été faite. Hein, parce que c'est une exigence du métier. Notamment, je vous dis, pour les métiers que je connais, droit, le chiffre, vous devez vérifier ce que vous avez obtenu grâce à l'IA. Il y avait une question qui se dédoublait tout à l'heure, on dit, est-ce qu'il y a un changement ? Il y a la question du changement et du remplacement. Le changement, il est majeur, ça, je pense que c'est absolument incontestable. En plus, il est en mouvement avec une accélération, hein, c'est exponentiel. C'est-à-dire que ce qu'on dit aujourd'hui, dans 6 mois, peut encore bouger. Donc l'accélération, elle est incontestable, c'est une révolution industrielle. Donc est-ce qu'il y a changement ? Ça, c'est absolument incontestable. Donc bien s'entourer, c'est effectivement s'entourer de personnes qui auront au moins des capacités, des compétences dans le domaine choisi, mais aussi une capacité de s'adapter à ces questions-là, avec un recul émotionnel, parce qu'il y a des biais idéologiques. Hein, aujourd'hui, pour tous les sites qu'on peut utiliser, il y a des biais idéologiques qui sont plutôt positif, mais il faut savoir qu'il y a une certaine logique, hein, qui est définie. Il y a une question politique. Après, la question du remplacement. Est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui un remplacement par l'IA ? Ce n'est pas le cas. Et quand on consulte la doctrine autorisée, en quelque sorte, comme on l'a fait en droit, vous avez vraiment deux écoles. C'est pas simplement la discussion, vous voyez, café de commerce, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on a ressenti. Non, il y a vraiment doctrine autorisée, vous avez deux écoles. Il y a ceux qui vous disent que le remplacement sera terrible et qu'il y aura un chômage de masse. Et vous en avez d'autres qui vous disent pas du tout, puisqu'il y aura de nouveaux métiers et des exigences de contrôle. Donc là, il y a deux écoles. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est du texte. Il n'y a pas encore, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas encore le geste.
Ça dépend de la vitesse à laquelle
Exactement.
Tout ça va se mettre en place. Exactement. Quel est votre avis à tous les deux là-dessus ? On prend quelle théorie ? Dominique ?
Moi, je prends la théorie du pragmatisme et du réalisme, surtout des sujets, notamment dans les organisations et les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui est capable. Alors, on peut faire même les business plans financiers, économiques, sont remis à plat tous les ans. Donc, je crois à la réalité des relations humaines, en fait, dans les organisations. Et là où l'IA est un outil certainement augmenté qui modifie les modèles économiques des entreprises manifestement, puisque ce sont les entreprises elles-mêmes concernées, des Capgemini, les Big Four, etc., qui en parlent pour leur propre modèle. En même temps, il y a d'autres pans d'entreprises qui sont absolument pas encore dans l'IA développée parce que leurs data sont pas fiables, parce qu'elles sont complètement internationales. Et nous, on le voit, on passe pas notre temps chez UIM à avoir des projets forcément IT. On a des projets de transfo, de retournement d'entreprise, on recherche des compétences qui ont du sang-froid, qui sont capables de régler des problèmes. C'est ça la réalité des entreprises. Donc moi, je suis plutôt à prédire le réalisme qu'à prédire des choses qui n'engageraient que moi. Et ça aussi, c'est un vrai sujet dans l'IA. C'est qu'est-ce qui m'engage dans mes convictions ? Qu'est-ce qui engage une réalité ? Et comme les salariés et les individus sont en plus connectés à tout, ils ont toute information qui valent ou pas quelque chose, rester connecté à l'humilité de ce qu'on raconte, c'est pour moi aussi une qualité du manager demain, du salarié ou du dirigeant, l'humilité.
Geoffrey Fournier, vous en pensez quoi ?
Moi, je pense qu'on ira sur un remplacement, mais que je qualifierais mesuré sur certaines choses très précises. Les postes de début de carrière facilement automatisables, les postes de cadre de, on va dire, middle management, qui seront facilement automatisables également, puisqu'en fait... ce pourquoi on les a créés en fait pourra être outillé et permettra en fait on soit N+1 de le faire en gagnant énormément de temps. Donc je pense que ça sera surtout ces deux populations là qui vont perdre entre guillemets avec le développement de l'IA, et il y a plein de choses qui vont se développer. Et encore une fois, moi quand je parle de l'IA, je passe souvent de cette pub des poulets loués. Le poulet loué, il sera jamais remplacé par ChatGPT. Donc vraiment, faut avoir ça en tête.
Il y a des secteurs
qui seront pas du tout impactés.
C'est rassurant de vous écouter. Il y a Edmond qui pose une question très intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi dans ce sujet. Faut-il miser sur des bonnes formations initiales
ou sur la formation professionnelle continue pour bien s'entourer justement à l'heure de l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend cette petite musique du « les écoles qui font 5-6 ans, ce sera plus utile dans quelques années. Maintenant, il va falloir se former au fil de l'eau pendant toute sa carrière. » C'est une bonne question que pose Edmond Xavier.
Oui, la question est essentielle parce que c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, on a plutôt envie de recruter quelqu'un qui viendrait déjà avec ces compétences-là. Elles n'existent pas. Vous avez en fait beaucoup d'écoles qui effectivement utilisent l'IA, facultés et écoles qui utilisent l'IA, qui apprennent à s'en servir, apprennent à avoir un peu de recul pour les métiers pour lesquels c'est possible, hein, parce qu'il y a plein de métiers aujourd'hui pour lesquels l'IA n'a aucune espèce d'utilité ou une utilité qui est très limitée. En droit, il n'y a pas de doute. Dans les cabinets d'avocats aujourd'hui, les premières, deuxième, troisième années peuvent être en grande partie remplacées par l'IA. Après, c'est plus difficile. Mais c'est... Donc la question était, est-ce qu'on peut miser sur une formation initiale? Il faut avoir un bout de formation initiale, mais la réponse en faculté ou dans les écoles, aujourd'hui, n'y est pas. Donc en fait, vous êtes plutôt sur, à mon sens, de ce que j'en vois, de la formation professionnelle continue. C'est-à-dire que c'est vraiment une curiosité, puisque de toute façon, ces outils-là vont encore évoluer. Ils évoluent très très vite.
Oui.
Donc de toute façon, ce qu'on vous a appris à l'école, à l'université, sera toujours important, hein, puisqu'il y a des bases, des fondamentaux, une logique, une distance qui sera très importante. Mais en réalité, on est plutôt, à mon sens, là c'est empirique, sur de la formation professionnelle continue.
Dominique,
il y a plusieurs années, existait la formation sur le poste de travail. En situation de travail. Et le pragmatisme des entreprises aujourd'hui, quand on voit tous les programmes qu'on puisse développer en formation depuis des trentaines d'années, la nécessité de se réinventer sur la pédagogie à utiliser est absolument essentielle. En cours, il n'y a pas un... Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'EDEC à Nice. Il n'y a pas un cours où il n'y a pas un étudiant qui a son ordinateur ou qui a déjà ChatGPT qui enregistre et qui va lui faire la synthèse du cours. Donc, de toute façon, aujourd'hui, acquérir un diplôme, c'est presque à questionner quel est ce diplôme, en fait.
Oui. On est en phase de transition, d'ailleurs.
C'est très français aussi, oui. De se dire, je dis bonjour à quelqu'un en fonction de son diplôme, les biais qu'on connaît sur les femmes qui peuvent pas évoluer, sur les seniors parce qu'ils ont pas eu le bon diplôme à l'époque. Donc, ouais. On voit bien qu'il y a une confrérie qui est très, très française. Plus française qu'ailleurs, plus nationale que dans d'autres pays. Après, l'expérientiel sur le terrain, on le voit sur les parcours de montée en compétences et de carrière des individus, c'est bien parce qu'ils ont vécu des expériences professionnelles différentes et qu'ils ont réglé des problèmes, qu'ils ont accès à des postes importants. C'est un sujet d'ailleurs qui gêne les femmes, c'est qu'elles n'ont pas mis en œuvre, quel que soit leur diplôme. Une femme qui reprendrait ses études pour passer polytechnique à 50 ans, on parie pas sur le fait qu'elle ait tout de suite un poste de dirigeante. Mmh. Celle qui a été dirigée une usine ou qui a implanté en Chine une usine pour son groupe, elle a plus de chances. Donc, la preuve d'action est certainement, dans les entreprises, aujourd'hui, encore plus nécessaire que le diplôme.
Chauffret.
Je suis en ligne par rapport à ça. Je pense qu'un bon modèle, c'est vraiment les armées. Les armées, vous prenez un officier, par exemple, de l'armée de terre, sur l'intégralité de sa carrière, en partant du principe qu'il faut en moyenne 27 ans, vous avez entre 7 et 8 ans qui sont dédiés, en continu, qui sont dédiés à sa formation. Parce que vous avez, en fait, quelqu'un qui va faire Saint-Cyr, admettons, il va enchaîner école d'état-major, école supérieure de guerre, etc. Et derrière, s'il passe général, il y a encore un cours supplémentaire. Donc, moi, je pense que ça marche très bien, ça. C'est-à-dire d'avoir un parcours professionnel clair, soit d'expertise, soit de management, en l'occurrence là c'est de management, avec des expériences opérationnelles et des phases de formation continue.
Oui.
Et ça fonctionne très bien.
Hein. Prendre
et c'est
cet
pas
exemple.
Lié à l'IA, hein, ouais. c'est la vie, je pense, qui marche comme ça.
Une dernière question de Léo, il nous reste deux minutes. Quelle sera la compétence la plus rare dans les entreprises d'ici 5 ans? Geoffrey, vous en pensez quoi?
La
compétence la plus rare dans les entreprises, qui sera recherchée dans les années qui viennent.
Capacité de discernement, capacité à gérer l'incertitude. Encore une fois, je vais refaire le lien avec les armées. S'il y a quelque chose que les armées font très bien, c'est cette capacité, du fait du conflit militaire, à gérer ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, hein, dans le jargon militaire. Et là, c'est exactement pareil. La crise sera permanente. Et donc gérer les changements, c'est clé.
Voilà. Oui, absolument. Xavier.
Même réponse. 2027 ne sera pas 2026.
L'adaptabilité.
Ne sera pas 2027. C'est ça. Cette curiosité, capacité d'adaptation, avec ce recul, puisqu'on parle de l'IA aujourd'hui, avec ce recul par rapport aux réponses qui seront faites.
Sachant qu'en termes de droit social, il faudra réussir à objectiver.
Ah oui, exactement.
Cet aspect des choses,
mais c'est terrible.
Difficile.
C'est qu'en fait, vous avez des outils payants qui vous répondent très très bien, hein, mais il faut toujours, toujours vérifier. Et donc, cette curiosité, cette adaptation, cette expérience, absolument. L'humain reste essentiel pour moi.
Dominique.
La résolution de problèmes. Il ne s'agit pas juste de dire « je sais faire », nous on le voit dans l'émission, « je sais faire » ou « j'ai fait », c'est comment j'ai résolu et prendre les clés du problème et résoudre le problème, même si on n'a pas tous les éléments. Donc ça rejoint ce qu'on se dit, mais l'action pour avoir un impact en fait. Une compétence qui maintient l'impact, la résolution de problèmes.
Voilà quelques clés aujourd'hui dans cette émission pour bien s'entourer à l'heure de l'intelligence artificielle dont on parle désormais tous les jours en entreprise. Merci à tous les trois d'être venus. Dominique Podesta, directrice associée au sein du cabinet de management transition EIM. Geoffrey Fournier, président de Victoria Merach. Et Xavier Dulin, avocat spécialisé en droit social. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission qui sera à retrouver à 12h30. Et puis en podcast et en replay évidemment sur notre appli, sur notre site. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
BFM Entreprise, les outils RH sur BFM Business.